Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonsoir, bienvenue dans Sors le Popcorn. Je suis Alix Martineau, chargée des podcasts sur Mademoiselle, et je suis accompagnée de Khalidi Rampel.
Bonjour.
Aujourd'hui, donc, on va parler d'une série, puisque c'est un Sors le Popcorn spécial série. Voilà.
Trop bien, c'est mon premier.
Bah oui, bah, moi c'est mon deuxième, tu vois, donc finalement...
Mais c'est vrai que ce podcast, rappelons-le, est quand même tout frais.
Voilà, exactement. Donc pour vous rappeler un peu le concept, Sors le Popcorn, ça sort un mercredi sur deux pour parler du film de la semaine et le dernier vendredi du mois pour parler d'une série du moment. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
Trop bien, j'ai trop hâte. Non, bon, en plus, je trouve que... En fait, ces derniers temps, si je peux me permettre de donner mon avis dès maintenant, je trouve qu'en ce moment, on manque de séries ultra fédératrices et... Ouais. Depuis la fin de Game of Thrones, j'ai l'impression que même avant la fin de Game of Thrones, d'ailleurs, il y a plein de séries qui ont essayé d'amener un public assez large et qui finalement se sont vite essoufflées et n'ont pas réussi à gagner l'audience qu'elles espéraient, comme je pense à Westworld par exemple, qui a brassé beaucoup de monde la première saison. Et la deuxième, j'ai l'impression, a perdu pas mal de ses clients et pour cause, je n'ai pas compris la moindre parcelle de l'intrigue par exemple. Moi, par exemple, la saison 2 de Westworld, je suis allée à l'épisode 3 et après j'ai fait « Ok, j'ai vraiment rien bité, donc j'arrête là ».
Moi, j'ai même pas repris, je crois.
Ben voilà. Donc je pense que ça a perdu comme ça. Et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'on manque vraiment de séries où les gens ont envie de se rassembler et d'en discuter, tu vois. Donc celle-ci, pour le coup, dont on va parler aujourd'hui, je trouve que... Enfin, moi, j'en ai parlé pas mal avec mes potes. J'ai l'impression que c'est une série qui fait plutôt l'unanimité.
Ouais.
Je suis contente qu'on parle de celle-ci, même en termes d'audience, ça doit pas non plus être extraordinaire. Je pense que ça a quand même marché correctement.
Je pense que c'est quand même assez niche comme série.
Tu crois ?
Ouais, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, on arrête tout de suite le suspense. On va parler de la série The End of the Fucking World qui vient de terminer sa saison 2. Donc, dans une première partie, on va parler de The End of the Fucking World sans spoiler. Et puis ensuite, on passera à une partie spoiler pour ceux qui n'ont pas fini la saison 2. Mais après, peut-être qu'on peut se mettre d'accord pour spoiler la saison 1 parce que sinon, ça n'a pas de sens.
Oh oui, dis donc, les gars, ça fait 2 ans donc on va pas commencer. C'était il y a 2 ans en plus, non ?
Ouais, c'était il y a 2 ans, ouais.
Hein, donc mettez-vous à jour et sinon écoutez. De toute façon, je pense que des gens qui n'auront pas vu la saison 1 n'écouteront pas un podcast sur cette saison 2.
Peut-être que si vous n'avez pas vu la saison 1 et que vous écoutez ce podcast, ça vous donnera envie de vous lancer aussi.
J'espère.
Voilà. Alors on va commencer d'abord avec les recommandations séries du moment. Qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment, Kalindi ?
Eh bien, en ce moment, je regarde pas mal de choses, mais j'avais envie de faire preuve d'un peu de chauvinisme. J'ai envie de vous conseiller une série que je m'étonne moi-même de conseiller.
Oui, moi, ça m'a beaucoup étonnée quand tu m'as dit que tu allais la conseiller.
Oui, je suis très étonnée, parce qu'en fait, il faut dire que j'ai réfléchi en... Je voulais pas parler d'une série dont on va être amené à parler dans les prochains épisodes de Sors le Popcorn. Je vais parler d'une série TF1. Et oui, comme quoi tout arrive en collaboration avec qui a collaboré avec Netflix pour sortir une série que j'ai trouvée plutôt intéressante, qui s'appelle Le Bazar de la Charité, qui passe tous les lundis à 21h donc sur TF1 et qui sera disponible en fin de mois, si je ne m'abuse, sur Netflix.
C'est ça, exactement.
Et,
le 26 décembre.
Voilà. Et donc en fait, j'ai commencé à regarder Le Bazar de la Charité après tout le monde, c'est-à-dire une semaine après, ou quelques jours après, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais lu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de gens en parler. Je me suis dit, bon, bah on va pas mourir conne. En plus, j'aimais bien le casting. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il y avait Stéphane Guillon. Et l'autre jour, je regarde un épisode, je fais, Stéphane Guillon, qu'est-ce qu'il fout là, là ? Qu'est-ce que c'est que ce casting chelou du cul ?
Mais bah,
c'est TF1, ouais. Ouais, mais justement, j'ai pas pigé. Donc... un super casting, Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie Debona, entre autres personnalités illustres de la scène médiatique française. Et donc, le bazar de la charité, ça raconte, et c'est ça que j'ai aimé, une histoire vraie qui s'est déroulée ici même à Paris. Je trouve qu'il y a trop peu de séries qui se déroulent dans notre belle capitale, donc j'avais envie de lui rendre hommage, même si la série a quand même pas mal de défauts, notamment parfois au niveau du jeu des acteurs, mais bon, ça reste infime comme défaut par rapport aux énormes qualités du produit complet. Et donc cette histoire raconte la vraie histoire du bazar de la charité. En fait, le bazar de la charité, c'était un lieu où se réunissaient les aristocrates, les femmes aristocrates surtout, au 19e siècle, pour acheter des œuvres, enfin faisaient de la charité en gros. Et un jour de 1890, le 4 mai, c'est ça, hein, le 4 mai 1897, le bazar de la charité a pris feu suite à un problème avec un cinématographe. Donc le cinématographe à l'époque était pas encore tout à fait au point. Et donc à l'intérieur du bazar de la charité, il y avait un cinématographe dans une petite pièce où on pouvait se rendre et regarder un film contre quelques centimes. Et donc, ça a été un peu l'attraction du bazar de la charité. Le problème, c'est que le bordel s'est mis à faire des étincelles à cause de la combustion à l'éther qui était censé faire justement fonctionner le projecteur. L'appareil a pris feu et en moins de 30 minutes, le bazar de la charité a été en proie, la proie des flammes. Et plus de 120 femmes sont décédées, sont mortes brûlées ou asphyxiées. Et donc la série commence comme ça en fait avec ce fameux incendie.
Ouais, et puis ça dure tout un épisode qui est long.
Ça dure vraiment tout un épisode, c'est très très long et c'est franchement le tout est vraiment ultra bien foutu. Ouais. Même s'il y a quelques incohérences en fait, l'épisode est donc ultra long. On a l'impression que c'est donc du temps réel que je sais pas en fait que l'incendie a vraiment duré une heure alors qu'en fait je crois que
ça durait 30 minutes.
C'était vraiment ça durait que 30 minutes et du coup il y a vraiment des personnages qui sont pris dans ce feu pendant ultra longtemps et qui ne meurent pas étouffés, qui ont même pas une trace de brûlure sur leur visage, donc il y a quelques incohérences de ce type-là. Mais bon, si on nommait ce problème-là, le premier épisode est ultra fort, je trouve. C'est une très belle entrée en matière.
Moi, je me suis sentie, je sais pas à toi, mais moi, je me suis sentie un peu en mode Titanic, tu vois.
Ah bah complètement.
Quand le bateau coule, et c'est vraiment ça, et la panique, tu peux pas sortir quand les gens voient que la porte est bloquée.
Ah non, mais c'est horrible. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour sortir du bazar de la charité, il n'y a que ces portes battantes. Vous voyez, comme quand vous entrez dans un hôtel, ces portes qui tournent là. Et en fait, la porte, déjà, tout le monde peut pas sortir par là, parce qu'il faut bien que les gens puissent partir petit groupe par petit groupe. Donc c'est un enfer. Et après, la porte se bloque. Enfin, c'est une angoisse totale. Et donc voilà, ça, c'est le premier épisode qui est ultra fort. Et en fait, pendant cette scène, ce qui a beaucoup choqué les téléspectateurs, c'est le comportement des hommes vis-à-vis des femmes à l'intérieur du bazar de la charité. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas hésité pour sauver leur peau à taper sur des femmes, à les pousser dans le feu,
à les piétiner.
Enfin, c'est quand même assez hardcore. Et en fait, au 19e, donc quand le bazar de la charité a vraiment pris feu en 1897, des rumeurs ont couru de gens qui avaient été au bazar de la charité ce soir-là, ou des gens qui étaient à l'extérieur, des rumeurs couraient comme quoi les hommes se seraient conduits de manière ultra vile et lâche, piétinant, frappant, poussant des femmes dans le feu pour sauver leur peau.
Je crois qu'il y a... Enfin, le nombre d'hommes morts...
Il y en a pas, je crois.
Ouais,
je crois
qu'il y en a deux.
Je crois qu'il y en a quasiment pas. Ouais. Et du coup, ces rumeurs ont couru très très vite, étouffées par le gouvernement. Et du coup, aujourd'hui, on ne sait pas réellement si les hommes se sont vraiment conduits comme ça. Mais en tout cas, c'est la version qu'a choisi de retenir TF1, que je trouve ultra intéressante. Et voilà. Et donc, en fait, le reste de la série, ça va être les destins mêlés de plusieurs femmes qui ont été bouleversées par cet événement du 4 mai 1897.
C'est des femmes assez modernes. Enfin, pour l'époque, tu vois, il y en a une qui veut divorcer, une autre qui dénonce vraiment le comportement des hommes.
Ouais.
Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était trois destins qui s'entremêlaient et qui étaient assez intéressants.
Ouais, c'est clairement des personnages de femmes ultra modernes. Et je trouve que les meufs jouent bien. Enfin, vraiment, j'étais ultra bien surprise par la globalité de la série. Alors, ce sera pas ma série préférée de l'année, c'est sûr et certain. En tout cas, je trouve que ça vaut le coup de temps en temps de sortir des séries américaines et des séries que on voit tout le temps sur Netflix qui ont toujours un peu les mêmes codes, etc.
Ouais.
Pour revenir sur de la série télé en mode vraiment télévision et Enfin voilà.
Mais aussi, c'est cool de se dire que TF1 essaie de se remettre à la fiction, mais à la fiction forte en fait. Et ils ont investi avec Netflix énormément d'argent dans chaque épisode. Je crois que ça s'élève à plusieurs millions d'euros.
Ouais, c'est énorme le budget qu'ils ont mis. Et heureusement, ils ont été récompensés par un énorme succès d'audience parce que le premier épisode a accumulé 6 millions, plus de 6 millions de personnes, ce qui faisait 31% de part de marché, ce qui est énorme. Mais c'était sûr parce que la série a joué d'un énorme, énorme teasing. Enfin, je sais que la com était, moi, sur, dès que je rentre à Levallois, il y a des panneaux lumineux partout avec le bazar de la charité, etc. Des pubs tout le temps. Donc, je me doutais que ça aurait du succès. Je pense qu'on a beaucoup teasé la violence en plus du premier épisode. Et je pense que tout ça, ça fait aussi écho à ce qu'on a vécu il y a quelques mois avec Notre-Dame. Oui. Même s'il n'y a pas eu de perte humaine. Je pense que c'est un incendie qui a pas mal marqué l'esprit des Français en 2019. Et du coup, une autre histoire d'incendie, je pense que ça a quand même secoué le cœur des gens. Ça leur a rappelé quelque chose de dramatique. Et puisque en plus, pour nous, Notre-Dame, c'est vraiment un symbole de culture, etc. Donc, je pense que tout ça, ça a contribué au succès énorme de la série. Et j'espère qu'elle va pas perdre en audience. Parce que, en tout cas, on est sur un joli projet.
Voilà. Et vous pouvez donc retrouver tous les épisodes fin décembre sur
tout
Netflix.
Et vous pouvez même les retrouver, d'ailleurs, en replay dès aujourd'hui sur MyTF1. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Kalindi, pour cette reco. Bah, écoute, moi, j'ai maté une série, une mini-série, ce week-end, de bout en bout, en 2 jours. vraiment, je m'y suis mise samedi matin, samedi soir, dimanche matin, je crois que c'était plié. Enfin, vraiment, ça s'appelle L'Affaire Grégory sur Netflix. Bon, c'est un peu ma passion, les faits divers, et surtout ces histoires un peu... pas résolu, enfin voilà, il y a eu une... L'affaire Grégory, il faut savoir que c'est quand même une affaire médiatique, judiciaire et policière qui a vraiment retourné la France pendant 10 ans dans les années 80. Le petit Grégory est décédé en 1984, j'allais dire 1884, non peut-être pas quand même, 1984, et en fait ce documentaire, cette mini-série documentaire Netflix qui comporte 5 épisodes, retrace tout ce qui s'est passé depuis le début, donc de la mort de petit Grégory jusqu'à aujourd'hui en fait. Et ce que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est qu'ils interviewent donc pas les protagonistes de l'affaire, parce que forcément ces familles là il faut les laisser tranquilles aussi, et je pense pas qu'elles aient très envie de s'exprimer aujourd'hui, mais ils ont interrogé donc les flics, les gendarmes qui étaient sur l'affaire, mais aussi, et c'est ultra intéressant, les avocats et les journalistes qui ont eu une part énorme dans l'affaire, et notamment on voit toute la manipulation de l'opinion publique à travers les journaux. Et même pas que de l'opinion publique, mais aussi de la justice. C'est une histoire, en fait, où il y a eu énormément de vices judiciaires, de vices de procédure judiciaire. Et donc, en fait, c'est vraiment atroce. Et chacun y a de sa petite hypothèse. Tout le monde pensait savoir qui c'était. Et en fait, il y a une véritable chasse aux sorcières qui s'est instaurée quand la presse a accusé Christine Villemain, donc la mère du petit Grégory, de l'avoir tué, sur des bases assez branlantes, puisque c'est purement sexiste. C'est une histoire de... Voilà, c'est un meurtre de femme, donc ça doit être elle. Elle a le même emploi du temps que son fils. Bah oui, c'est sa mère. Donc, voilà, c'était vraiment sur des bases branlantes. Et c'est vraiment passionnant comme histoire à découvrir, au-delà du côté morbide qui est... franchement, qui file un peu les frissons. Mais c'est vraiment l'histoire de ce clan Villemain et de toutes ces péripéties et de toutes les vies que ça a brisées. Et même les journalistes, donc on voit notamment Jean Kerr, qui est un photoreporter de Paris Match à l'époque, qui s'exprime énormément pendant toute la mini-série. Et au début, je l'aimais pas parce que je me disais, mais il viole la vie privée de ces gens sans honte, sans vergogne, quoi. Et en fait, il s'est retrouvé très proche des Villemain et qui sont devenus ses amis. Et en fait, il est très touchant. On s'attache de plus en plus à lui. Enfin, c'est vraiment un pilier de cette affaire. C'est super intéressant. Moi, je la connaissais que de loin. Et là, j'ai vraiment eu tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ouais, vraiment ultra intéressant.
C'est un combien d'épisodes ?
5.
Moi, j'avoue que j'hésite à m'y mettre. Venant à peine d'emménager seule, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans un seum interplanétaire le soir en me couchant ? Et d'ailleurs, j'ai vu que plusieurs rédactrices de Mademoiselle avaient mis sur Instagram des photos d'elles en train
de
mater l'affaire Grégory. Et genre, ça a été un vrai truc dans la rédac. Je crois que c'est une série que quasiment tout le monde a bingé.
Bah oui, parce que je suis arrivée lundi en me disant, j'ai trop envie d'écrire dessus et tout. Moi, c'est ma passion. J'ai adoré les séries genre I Am a Killer. Qui interroge les
c'était hyper bien.
Ouais, les prisonniers du couloir de la mort. J'aime trop les mini-séries comme ça, documentaires sur des.
Est-ce que je peux donner une dernière recommandation qui moi, est vraiment mon coup de cœur de l'année dernière ? C'est The Ted Bundy Tapes.
Ah ouais.
Qui m'ont vraiment, mais
trop stylé.
Passionné. Mais c'était vraiment passionnant.
Mais pour le coup, là, moi, je trouvais que ce qui était un peu horrible, c'est que t'entendais la voix.
Ah bah oui, mais c'est ça qui est
et
génial.
Et là, ça te glace.
Ah non, mais c'est
quoi.
La meilleure chose. En gros, The Ted Bundy Tapes, c'est donc une série documentaire qui est basée sur des cassettes, qui vont enregistrer, en fait, le témoignage de Ted Bundy et ses confessions. Et donc, pour rappel, Ted Bundy, c'est un des plus gros serial killers.
C'est un des premiers. En fait, c'est un des premiers qui a fait que le FBI a dit ça s'appelle un serial killer.
Exactement.
En fait, qui a donné le nom.
Qui a basé ses profils un peu sur celui de Ted Bundy. Et donc, Ted Bundy a violé, assassiné, puis reviolé les corps assassinés de ses victimes, qui étaient toutes des femmes qui se ressemblaient, etc. Ted Bundy a fini par être chopé. Il s'est évadé une fois, enfin deux fois. Bon, bref,
ouais.
Enfin, c'est un délire.
C'est rocambolesque,
en
fait.
C'est complètement rocambolesque. En plus, Ted Bundy a assuré sa propre défense. Parce qu'il faut savoir que c'était, à la base, un avocat, un intellectuel, un mec brillant et beau gosse.
Ouais.
Donc, il avait vraiment toutes les cartes en main pour qu'on se doute pas que ce soit un taré et qu'il puisse ramener plein de zouzes chez lui pour faire ce qu'il a fait après. Bref, c'est une histoire absolument abracadabrantesque et dramatique, quelque chose qui a vraiment ébranlé les États-Unis. Et en fait, voilà, donc on recueille ses confessions ces cassettes-là sont le recueil de ses confessions. Et donc, on l'entend parler tout le long de la série et c'est mis sur des images d'archives où on voit Ted Bundy se défendre lui-même pendant son procès, où on le voit sourire. C'est vraiment glaçant, quoi. Et moi, j'ai vu ça, j'étais au festival du film fantastique de Gérard May, toute seule dans la neige, à 4h du matin. Et je n'arrivais plus à m'arrêter de regarder Ted Bundy. Et j'étais là. Et le matin, je vais me lever pour aller en projection. À 8h30, je me suis levée à 7h, j'ai marché seule dans la neige au bord du lac.
Quelle horreur !
Et j'ai eu très peur.
Ah ouais, moi je fermais ma porte à double tour quand je regardais Ted Bundy.
Tu m'étonnes. Ah non, mais c'est un enfer.
Voilà
c'est ma reco sur tout ce qui est mini-série, documentaire. Moi, ça a vraiment été ma passion parce que je trouve que, c'est grandes figures monstrueuses. De l'histoire, ça a un côté fascinant de par l'aspect morbide, justement. Donc, on rentre très vite là-dedans et on n'arrive plus à s'arrêter.
Oui, c'est un peu dur de s'arrêter. Je cherche moi-même encore comment arrêter de regarder des séries sur les tueurs en série.
T'as écrit d'ailleurs un article.
J'ai écrit un article que je mettrai dans les liens de ce podcast sur ma passion pour les tueurs en série dans les séries. Voilà.
Yes.
Eh bien, continuons.
De toute façon,
oh là là.
Mais c'est fou.
C'est franchement un enchaînement parfait, puisque nous allons enchaîner avec The End of the Fucking World, sans spoiler. Donc, The End of the Fucking World, c'est une série qui est sortie le 5 novembre. Enfin, la saison 2 est sortie le 5 novembre dernier sur Netflix. Et voilà, donc c'est l'histoire. C'est inspiré d'un roman graphique de Charles Forsman. C'est l'histoire de James, c'est un ado qui se pense psychopathe au début de la saison 1 et qui se lie d'amitié avec une camarade de classe, Alyssa. Enfin, il se lie d'amitié, en fait, lui, son but, c'est que, il veut la tuer. En fait, c'est l'objectif qu'il se met. Et en fait, ils embarquent tous les deux dans un road trip et finalement, il se rend compte qu'il est capable d'avoir des sentiments pour elle. Donc ça, c'est le pitch de la saison 1. Et donc, dans leur road trip un peu d'école buissonnière, James et Alyssa tombent sur une maison qui paraît inhabitée. Ils s'y installent pour la nuit, sauf que le proprio revient et tente de violer Alyssa pendant qu'elle dort. Et donc, James arrive par derrière et le tue. Donc, il se retrouve vraiment, pour le coup, meurtrier, mais pas psychopathe. Il y a une nuance.
Et ils ont de bonnes raisons de repartir en road trip, parce qu'ils sont désormais en cavale.
Voilà, et c'est un peu le Bonnie and Clyde de adolescent. Et la saison 1 donc se terminait, je le rappelle, sur la police qui trouve James et Alyssa, j'allais dire Bonnie and Clyde, qui trouve James et Alyssa, et James se fait tirer dessus sur la plage, sur une dernière scène, moi, que j'avais trouvée magnifique et super prenante, en fait, où ces ados qui n'avaient pensé ne rien éprouver, ne rien pouvoir éprouver, en fait, cette scène est d'une dramaturgie et... Enfin, j'ai trouvé ça top.
Mmh, voilà. Aussi.
Donc ça, c'est la saison 1. Bien spoilé.
Tout à fait.
Puisque c'est jusqu'à la fin. Et est-ce que toi, Kalindi, tu as attendu la saison 2 et pourquoi ?
Bah, alors déjà, j'attendais pas spécialement la saison 1. faut savoir que pour parler un peu de séries pour ados, moi c'est pas... En fait, les teen séries, c'est vraiment pas ma cam de base. Enfin, je pensais que c'était pas ma cam de base. Et en fait, depuis quelques années, eh ben, j'en ai bouffé quand même un sacré paquet. Et même... Même des séries que je dénigrais avant même d'avoir jeté un œil dessus. Par exemple, j'ai regardé la première saison de Riverdale avec un plaisir coupable, mais pas si coupable que ça d'ailleurs. J'ai adoré 13 Reasons Why, voilà, j'ai adoré, j'ai été prise de bout en bout, j'ai même bingé ça au Vietnam alors que j'avais franchement autre chose à branler. Et donc voilà, mais The End of the Fucking World saison 1... J'étais un peu lassée avant même d'avoir commencé. Je me suis dit, bon, encore un truc, douceâtre, ça va me saouler. En fait, j'ai adoré la saison 1 que j'ai matée avec mon mec. Et vraiment, lui, pareil, il n'est pas ultra fan de séries pour ados de base. Et là, vraiment, tous les deux, on a ultra accroché. Donc, j'ai, en effet, après la fin de la saison 1, attendu la saison 2. Malheureusement, le temps a fait son œuvre. Et souvent, quand une série met trop de temps
Que ça faisait quand même 2 ans qu'on l'attendait.
Ça faisait quand même 2 ans. Donc, quand une série met plus d'un an à revenir, voilà, mon impatience a eu le temps de largement chuter. Donc, quand j'ai vu qu'elle allait débarquer, j'étais contente, mais j'ai pas sauté non plus au plafond. Parce que déjà, j'avais quasiment oublié tous les rouages de la saison 1. Il faut savoir que quand c'est ton travail de mater des contenus audiovisuels toute la journée et tous les soirs, eh ben, tu oublies souvent les intrigues des trucs que tu as vu, car tu vois trop de choses. Donc j'avais globalement oublié, j'avais même oublié l'argument principal qui était, voilà, en fait, lui ne ressent rien, il veut la buter. C'est-à-dire que quand j'ai revu le previously de la saison, avant la saison 2, j'étais là, ah oui, il voulait la buter au début, genre. J'avais complètement oublié cette histoire. Pour moi, c'est James, c'est le mec mimsou de base, qui est vraiment adorable, ichou.
Alors
qui t'as envie de faire les câlins, hein, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Anyway. Et donc voilà, donc bon, j'avais hâte, mais mon impatience était un peu ternie par le temps, quoi.
Ouais, je comprends, mais en même temps, moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est le format que je trouve intéressant, qui est donc une série pas comique ni dramatique, enfin, tu vois, c'est une sorte d'ovni, et qui dure 20 minutes. Et les séries courtes, on en a peu en ce moment, je trouve, à part les séries vraiment drôles de comédie. Mais voilà, donc c'est un format que j'aimais bien, et surtout, j'aimais bien aussi... l'atmosphère qui se dégageait de la série, un peu, j'aime trop les décors à la Twin Peaks, un peu, tu sais, qui sortent cette ville du réel, enfin leur road trip un peu du réel. Voilà, on sait que c'est des Britanniques, mais alors sinon ils pourraient être n'importe où ou ailleurs.
Clairement.
En fait.
Et je trouve d'ailleurs que ce côté Twin Peaks, il est vachement plus visible dans la saison 2 que dans la première saison, parce que
il y a le diner aussi.
Il y a le diner et il y a cette ambiance vraiment vachement plus mystérieuse, et vraiment moi j'étais ultra contente, justement, c'est cool que tu parles de Twin Peaks, de retrouver cette ambiance là parce que c'est une ambiance que je traque un peu dans les séries et dont j'avais commencé à retrouver l'essence devant Wayward Pines, qui est une série, je sais pas si tu te souviens, qui est sortie il y a quelques années, et sur un gars un jour qui a un accident de voiture dans un village paumé, et en fait il se réveille, il a plus son portefeuille, il a plus rien, et impossible de passer un coup de fil à l'extérieur de cet endroit, et en fait tout le monde se comporte de manière ultra chelou et il comprend vite qu'il peut pas sortir de cette putain de ville, de ce putain de village.
Putain, j'en ai jamais entendu parler.
Donc ça commence trop bien et ça finit de manière extrêmement nulle. Voilà, le plus ça passe et le plus ça s'enfonce dans le n'importe nawa, qu'est-ce qui est vraiment ultra dommage, parce qu'il y avait une vraie belle promesse de fitter un peu à l'esprit Twin Peaks, qui est moi une de mes séries préférées au monde. Et d'ailleurs, c'était avec Matt Dillon, que j'aime beaucoup, qui joue dans le dernier Lars von Trier, donc Wayward Pines. Si d'ailleurs, voilà, c'est une nouvelle recommandation. C'est une série qui a eu peu de succès, dont peu de gens ont parlé. Voilà.
Vraiment,
si
j'en ai jamais entendu parler, mais vraiment.
Je sais même plus sur quoi c'était diffusé. Mais l'argument était vraiment cool. Ça vaut les premiers épisodes valent vraiment le détour. Enfin, la première saison, globalement, vaut le détour. N'hésitez pas à regarder, même si la conclusion est un peu, à mon sens, bancale.
Mais bref. L'esthétique en fait de The End of the Fucking World, moi, m'a plu immédiatement. Les dialogues ultra épurés et le fait qu'on entende quand même les voix dans leur tête, mm-hmm. je trouve que c'est un parti pris assez intéressant.
Grave.
Et c'est pas une voix off en fait, c'est vraiment un flux de conscience que t'entends tout le temps. Et je trouvais ça en fait assez poétique comme série et ouais, vraiment atemporel, un peu fantastique quoi. Et, ouais, non, j'avais trop aimé la saison 1 pour ça. Du coup, j'attendais vachement la saison 2, moi, finalement. Même si j'avais peur parce que je trouvais que la saison 1 s'était terminée de manière si forte. Mm-hmm. En fait, vraiment, Putain, je perds mes mots aujourd'hui. Comment on dit quand c'est au sommet, là ? Apogée.
J'allais dire firmament.
Pas du tout, en plus. Donc cet apogée de fin de série m'avait tellement prise que je me disais ah ouais, une saison 2, mais comment ils vont faire pour se sortir de cette situation? Et en fait, donc la saison 2 commence, je vais juste la pitcher hein, bien sûr sans spoiler.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La saison 2 commence avec une introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Bonnie. Et c'est 2 ans après les faits du meurtre du professeur par James et Alyssa. Donc voilà, ça commence par là. Et du coup, de manière assez générale, est-ce que la saison 2 t'a plu ?
Ah oui, moi j'ai grave aimé la saison 2. J'ai trouvé le nouveau personnage ultra bien pensé,
ouais.
Marrant, dans tout ce qu'il a de plus affreux.
Ouais.
Puis j'ai adoré leur relation. Je trouve que le personnage, leur personnage à tous les deux prend vraiment de l'ampleur. Et j'aime bien, j'aime beaucoup le côté, en fait, par exemple, la vie de James, la vie s'acharne sur lui. Vraiment, c'est la personne qui a le moins de chance, Bichette. Et j'aime beaucoup ce truc ultra tragique et à la fois comique, ce ton vraiment qui oscille entre ces deux genres. Non, j'ai aimé la saison 2. Je l'ai trouvée vraiment ultra maligne. Et je trouvais qu'elle était pas, elle recopiait pas exactement les mêmes gimmicks que la saison 1. Elle arrivait à innover. Donc globalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai même encore plus aimé l'ambiance générale parce que j'ai adoré l'ambiance diner, le côté track.
Ouais. Et puis le trio, moi je trouve que en fait de rajouter un personnage, ça dynamisait le truc
complètement.
Et en fait, j'ai quand même retrouvé la saison 1 parce qu'il y a quand même les signatures des personnages. Donc Alyssa qui dit tout le temps fuck et James qui dit tout le temps ok. C'est ma passion. Vraiment, ils se disent rien d'autre. Heureusement qu'on a leur pensée, parce que sinon...
C'est clair. Mais et puis, il faut préciser aussi aux auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la saison 1, d'ailleurs, qu'ils ont un accent à couper au fucking couteau. Et vraiment, surtout, Alyssa.
Ouais.
Parfois, je regardais dans mon lit, j'étais là, je m'amusais à répéter ce qu'elle disait. Ouais. Je me disais, c'est pas... C'est fou quand même de pousser à ce point-là chacune de... Enfin, vraiment, t'as l'impression qu'elle a un truc dans la bouche tellement elle
puis,
prononce avec.
Ouais, et puis en fait, je pense qu'elle accentue aussi parce que c'est très adolescent, tu sais, de se chercher une façon de parler, de chercher un genre. Et donc, je trouve que ça accentue vachement là-dessus. Mais du coup, t'as écrit un article, toi, où tu disais que les personnages de... The End of the Fucking World te ressemblait plus que dans les autres teen séries.
Ah, complètement. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont... En fait, je me suis retrouvée un peu dans chacun des personnages. Alors, pas trop Bonnie, du coup. Mais on vous dira après pourquoi. Mais en fait, chez Alyssa, j'ai retrouvé cette insolence que j'avais quand j'étais ado, où j'étais là, de toute façon, personne ne comprend. Wesh. Tu vois, et ce truc, hein, pas rebelle, mais rebelle un peu en mousse, tu vois. Mais ce côté ultra insolent, à tout le temps en train de d'insulter,
de
dire des gros
ciel.
Mots, de rouler les yeux, et puis d'envoyer des punchlines tout le temps. Et en fait, donc j'ai retrouvé ce côté-là de moi chez Alissa. Et à l'inverse, j'ai aussi retrouvé ce côté ultra timoré et peureux de James. Et en fait, je trouve que ce sont que deux faces d'une même pièce. Ce juste visage adolescent qui est juste ultra mal dans ses baskets, qui sait pas, qui sait pas quoi faire. En fait, moi, j'ai vécu tout leur road trip comme une métaphore du parcours scolaire où, en fait, eh ben, tu te gourres, tout est tout le temps, enfin, c'est semé d'embûches et voilà. Donc, non, moi, j'ai trouvé que, enfin, évidemment que ces ados-là qui sont juste peau max dans la vie et qui, en plus, peuvent même pas jouir du soutien des adultes parce que tous les adultes dans cette série sont nuls à chier.
Ils sont vraiment tous nuls.
Ils sont vraiment tous nuls à chier. Et donc, je me suis vachement plus reconnue en eux que dans les personnages de Riverdale, par exemple.
Non, mais Riverdale, il faut pas s'identifier. Tu peux pas t'identifier à Riverdale.
Bah, je suis sûre qu'il y a des gens qui s'identifient très bien au personnage de Riverdale.
Alors moi, je suis Véronica.
Bah, je suis sûre qu'il y a des meufs qui doivent se dire ça. C'est sûr et certain. Il y a forcément des gens qui
mais
se
qui
disent,
parlent comme
moi,
ça à ses parents.
Véronica, quoi. C'est sûr et certain. Voilà, ou même... Enfin, tu vois, moi, quand j'ai grandi devant les One Tree Hill et les Orange County, qui était vraiment ma série préférée. Donc, attends, c'est Newport Beach.
Newport Beach.
Le titre en français.
Ce Newport qui est bizarre, Beach. D'ailleurs, parce non, que ouais. Orange County ou Newport Beach, je sais
non,
pas.
Mais bon, ouais. Et Newport Beach, ça a été ma fucking life pendant des années.
C'était mais trop bien.
Je ne pouvais plus. Sauf qu'il était absolument impossible de se projeter dans aucun des profils de qu'on nous présentait parce que tous complètement caricaturaux. Et puis surtout, ils avaient 48 ans, tu vois, alors qu'ils étaient en Marseille.
Exactement. Alors que là, je trouve que Alissa et James, ils ont vraiment des physiques d'ados, tu vois, aussi.
Alors qu'ils sont vieux quand même, je veux dire.
Ils sont vieux.
Jessica Barden, elle a mon âge, 27 ans, était là.
Ah ouais.
Elle joue quand même un personnage qui est censé en avoir 10 de moins, but anyway.
Oui, mais en même temps, elle a un physique aussi très... adolescent pour moi. Elle
complètement,
a... Et surtout James, en fait.
Ouais,
qui a une grande tige comme ça, avec les épaules un peu dégingandées. Dégingandées, je sais jamais.
Dégingandées,
enfin voilà. Il est trop mimsou. Et c'est vrai qu'au départ, quand même, il se dit qu'il est un psychopathe, tu vois.
Un chaton.
Et en fait, pas du tout. C'est trop mignon, tu vois.
Mais oui, c'est ça. C'est cette volonté des ados tout le temps à vouloir se différencier, se distinguer de la masse en s'inventant des trucs. Et je trouve que c'est ultra cool de montrer les ados dans leur vrai écrin, si je puis dire, de jeunes qui sont pleins de fêlures, en fait. Parce que c'est quand même une période ultra violente où t'es en train de te construire. T'es plus un enfant, mais t'es pas encore un adulte. On te renvoie en permanence à ta situation d'entre-deux. Où on est là où on te donne l'autorisation pour faire quelques trucs, mais quand même pas tout à fait. Donc t'as des libertés, mais elles sont pas non plus complètes. Du coup, t'es là, que puis-je faire de ma vie.
Et du coup, ils se cassent, ils font vraiment le rêve adolescent, c'est vraiment l'école buissonnière, quoi. Ciao, bye bye. Et aucun adulte n'a l'air de s'inquiéter plus que ça, à part le père de James. Mais voilà.
Et pas longtemps, du coup, on vous dira pourquoi dans la partie avec spoiler.
Mais ouais.
Non, je trouve que vraiment. Moi, ça m'a fait plaisir de voir des ados déjà un petit peu... Elle est complètement cynique, elle est désabusée.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a une vision ultra pessimiste de la vie et il n'y a que au contact de James qu'elle va réussir à voir l'existence sous un nouvel angle, quelque chose de plus lumineux, de plus heureux. Et du coup, je trouve que leur relation fonctionne ultra bien, ils sont vraiment ultra complémentaires. Et moi, je me suis surtout vachement plus attachée cette saison-là au personnage d'Alissa que j'ai trouvé vraiment fouillé.
En fait, elle a une raison de plus d'être cynique. En fait, elle a une vraie raison, puisque dans la saison 1, on a tenté de la violer et James a tué le mec sur elle pratiquement. Enfin, elle était couverte de sang. Cette scène était super forte aussi de tout le sang qu'il y a dans le corps, parce qu'en général, dans les séries, t'as une égratignure de sang en travers du visage et puis basta. Là, vraiment couverte de sang jusqu'à la bouche, quoi. Et c'était super impressionnant. J'ai vraiment ce souvenir de cette scène. Et en fait, du coup, dans la saison 2, elle vit avec ce souvenir-là et elle vit avec ce fardeau-là aussi qui pèse vraiment. Et ouais, c'est vrai que du coup, ça lui donne une profondeur, puisque dans la saison 2, ils sont plus trop ados, ils ont 19 ans.
Ouais.
Donc voilà, c'est vrai que elle est plus attachante dans la saison 2.
Elle est plus attachante, bien qu'insupportable à plein de moments. Hein.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
qu'elle
sûr.
Va être vraiment odieuse et taiseuse.
Ouais.
Alors que t'as des moments où t'as envie de dire « Meuf, vas-y, dis ce que tu penses. » et voilà, mais en fait, c'est toutes ces... tous ces côtés un peu insupportables à elle qui la rendent encore plus attachante et qui la rendent plus humaine, et t'as vraiment envie de la comprendre, de l'aider, de la sortir de cette mauvaise passe qu'elle est en train de traverser. Et si je dis des conneries, parce qu'en vrai il y a un adulte dans cette saison 2 qui essaye vraiment d'aider, et c'est sa tante à elle.
Oui, sa tante.
C'est sa tante, hein.
Oui, c'est sa tante.
Voilà, ça c'est un peu la figure, la seule figure responsable de tous les adultes.
Oui.
Parce que même le flic est nul à chier. Enfin bon, on va y venir dans quelques instants, je pense.
Bah oui, je pense qu'on peut passer à la partie spoiler maintenant. Yes. Allez, vous entendez l'alarme. C'est donc la partie spoiler à partir de maintenant. Si vous n'avez pas vu la saison 2 de The End of the Fucking World, bah vous pouvez écouter, mais tant pis pour vous. Enfin voilà. Donc du coup, on va commencer par parler un peu plus de ce personnage de Bonnie. Moi, je l'ai... Donc on la découvre dans le premier épisode qui lui est entièrement consacré. Et donc on explique tout son passé et sa relation donc avec le professeur, puisqu'elle était... c'est quelqu'un d'assez influençable et impressionnable. Et en fait, elle a eu énormément de pression de la part de ses parents. Elle a raté ses examens, donc elle n'a pas pu rentrer à la fac. Sauf qu'elle a quand même trouvé un petit boulot à la fac. Et elle s'est laissée impressionner par ce professeur de philosophie, il me semble. Et voilà. Et lui profite d'elle. C'est vraiment la pire ordure. Parce que, en fait, même si elle a l'air plus dangereuse, je trouve, que Alyssa et James, parce que eux... Voilà, c'était vraiment une recherche adolescente. Le crime faisait partie d'une recherche adolescente qu'on prenait pas trop au sérieux, qui devient plus sérieuse, mais ça reste quand même de l'autodéfense. Elle a vraiment une volonté de vengeance, et tu sens qu'elle veut aller jusqu'au bout. Elle s'arme, elle prend les mesures pour aller jusqu'au bout de son acte. Mais pour autant, tu peux pas non plus la trouver trop dangereuse, puisque c'est quand même une...
Mais attends, on n'a pas dit pourquoi, parce que t'as pas dit que elle entretient une relation...
Oui, quand je dis qu'elle est impressionnable et influençable, c'est le professeur, en fait, la...
Profite d'elle pour avoir des faveurs sexuelles, donc c'est quelque chose qu'il arrive assez bien à faire, c'est-à-dire qu'il va manipuler ses élèves pour qu'elles finissent par coucher avec lui. Et du coup, cette fille tombe folle amoureuse du professeur, malheureux, et donc elle finit par buter une nana, par lui rouler dessus, une nana qui menace l'exclusivité de son couple, entre guillemets, avec le professeur. Elle roule sur cette femme, du coup elle finit en tôle, et en tôle, le professeur lui écrit que ça y est, il est enfin amoureux d'elle.
Oui.
Du coup, elle pense qu'elle a une relation absolument extraordinaire et particulière avec cet homme qui finalement meurt assassiné par James. Et du coup, Bonnie va se mettre en quête d'Alyssa et James pour aller venger son amour de zinzin.
Exactement. Merci. C'est vrai que c'est beaucoup mieux d'expliquer que ce que j'essayais de faire. Mais oui, j'ai beaucoup aimé son arc narratif, et je la trouve hyper intéressante et... Et l'actrice est vraiment très douée.
Ah, l'actrice est top. En fait, elle a ce que j'ai adoré chez Bonnie, c'est également son côté ultra taiseux, c'est-à-dire qu'elle dit vraiment rien. Et vraiment, quand elle parle, c'est pour dire des trucs ultra chelous.
Mais elle, on n'a pas accès à sa pensée.
Ouais, exactement. Ce qui est bien plus intéressant, parce que du coup, on est dans la même position qu'Alyssa et James, où on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans sa tête. On ne sait pas si elle est capable d'aller jusqu'au bout et de les buter. On ne sait pas si c'est du bluff. En fait, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle est ou non capable de faire, d'autant plus qu'elle va tuer par mégarde un type dans un hôtel.
Ouais. Alors ça, c'est
vraiment,
c'est
par mégarde.
Forte aussi.
Complètement.
Vraiment, le mec est... Donc, ils arrivent... parce que... Donc, il y a d'abord une constitution du trio, puisque James va retrouver Alyssa. Alyssa qui va se marier avec son promis. Je sais même plus comment il s'appelle, ce mec qui m'a l'air très gentil, mais... point très intéressant. Donc elle se marie avec lui et elle s'enfuit ensuite avec James dans sa voiture, et ils sont tous les deux dans la voiture quand ils rencontrent une autostoppeuse qui est Bonnie, qui a tout planifié, bien sûr, qui les suit depuis, voilà. Et donc elle est trop contente de se retrouver avec les deux. Il y a une constitution de ce trio et qui est assez
marrant.
C'est très étrange, où t'as James qui dit se reconnaître vachement en Bonnie parce qu'elle dit rien et tout. Et en fait, t'as Alyssa qui n'en peut plus d'elle. Et c'est assez marrant, je trouve, ce passage où ils sont tous les trois dans la voiture, où toi, en tant que spectateur, tu sais ce qui... Enfin, tu sais ce
tu
pourquoi...
Voilà,
tu sais pourquoi Bonnie est là. Mais James et Alyssa sont vraiment dans la pure découverte du personnage, et c'est assez marrant.
Complètement.
Et du coup, en fait, ils se rendent un moment dans un motel.
Ce qui est drôle aussi, c'est que Alyssa arrête pas de dire qu'elle est complètement bizarre, étant elle-même un tout petit peu présentée comme une une personne qui a des difficultés à être en accord avec elle-même, donc c'est marrant.
Et donc, en fait, tous les trois vont se diriger vers un motel pour dormir le soir. Et le maître d'hôtel, si c'est comme ça qu'on les appelle, oui. Enfin, le gérant de l'hôtel, en fait, devient ultra lourd le soir avec Bonnie. Donc, ils prennent un verre, tous les trois. Et le mec vient s'incruster. Il essaie de draguer Bonnie. Sachant que James et Alyssa dorment dans la même chambre, il se dit « Ah, peut-être il y a moyen ». Et donc, il force l'entrée de sa chambre. Et elle le menace de le tuer. Et en fait, elle le tue vraiment, mais en fait...
Sans vraiment faire exprès.
Et en fait, ça rappelle beaucoup la saison 1, où ben en fait, c'est toujours de l'autodéfense. Et, ouais.
De victime, tu deviens un bourreau, mais vraiment contre ton gré.
Contre ton gré, ouais.
Donc du coup, son profil vient se mettre en parallèle avec celui d'Alyssa. Et non, vraiment, ce personnage de Bonnie est ultra fort. Je trouve que leur trio fonctionne vraiment très très bien, et ce jusqu'à la fin, puisque leur destin va se retrouver d'autant plus lié quand Alyssa et James vont lui révéler que en réalité ce type-là était un violeur et un meurtrier. Elle le croit pas, elle finit par entendre raison, elle veut se suicider, et c'est James et Alyssa qui l'empêchent de commettre le pire.
Ouais. Mais d'ailleurs, avant ça, il y a toute une scène, une fausse fin que j'ai trouvée incroyable, mais vraiment, j'étais...
Moi, j'ai pas cru vraiment une seule
seconde. C'est vrai ?
Non, mais vraiment pas une seule seconde.
Mais parce que moi, cette série, quand même, me surprend tout le temps. Enfin, je trouve que c'est une série, scénaristiquement parlant, pas comme les autres, tu vois, qui va un peu là où on l'emmène. Et du coup, quand donc Bonnie se retrouve face à James et Alyssa dans le diner, et qu'ils sont en train d'essayer de lui parler, et que tout d'un coup, d'une violence sans nom, elle leur tire dans la tête... Tous les deux d'affilée. Déjà, je me suis dit waouh, elle tire bien.
Ouais, non, mais oui.
Mais après, comme ça a duré quand même un bout de temps où ils sont allongés, inertes, je me suis dit est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Après, c'était quand même l'avant-dernier épisode.
Ouais.
Donc c'était un peu. Mais j'ai trouvé cette fausse fin assez marrante et assez. Voilà, en vrai, j'aurais pas aimé qu'ils aillent jusqu'au bout de ça, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Et puis, faut dire aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que le meurtre est toujours ici présenté de manière quasi, je vais pas dire drôle. Ici, la mort, elle est jamais ultra dramatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, mais le père de James meurt.
Ah oui.
Et de manière pourtant tragique, hein, il fait un arrêt cardiaque. Mm. Mais toute ce qui arrive après à James, et qui est censé être tragique, est un poil marrant.
Mais oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est une série qui... Donc à des ressorts dramatiques ultra dark, et pour autant tu te sens jamais en insécurité. Tu sais que la série va pas te faire faux bond, tu sais que, enfin, moi qui suis quelqu'un de très tendu et de je sursaute au moindre truc et j'ai peur pour les personnages et j'entre en empathie assez facilement, en fait là j'avais complètement confiance en la série pour ne pas me faire peur et ne pas me mettre en insécurité.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est exactement ça. Et je trouve que même quand Bonnie bute le mec de l'hôtel, bah c'est quasiment un peu, enfin c'est marrant parce que t'as l'impression vraiment que l'univers a envie de les fucker, quoi.
Ouais,
tu vois, te dis putain les pauvres, dès qu'ils essaient de faire un truc ça ne marche pas, putain mais pourquoi.
Et mais ouais, la mort est vue comme presque anecdotique, en fait.
Ouais, exactement, et c'est ce qui est ultra intéressant dans cette série, enfin en plus de tout ce qu'on a déjà dit.
Mais et du coup il y a aussi pour finir ce dénouement où donc ils empêchent Bonnie de se suicider. Le flic finalement intervient parce que c'est
le flic le plus nul.
Le flic, donc pour rappel, entre dans le diner. Alyssa est menacée par Bonnie, sauf qu'elle ne peut rien dire. Donc elle essaie de lui glisser un mot que le flic refuse. Enfin voilà, il mange son strudel à la pomme là devant le comptoir. Il se rend pas compte du tout que la situation est tendue. Mais et donc voilà, il s'en va. Sauf que en partant, il voit que Bonnie a un flingue. Et là, il se dit bon bah faut peut-être que j'intervienne alors. Donc il retourne dans sa voiture. Il appelle du renfort avant d'y aller tout seul, alors qu'il y a quand même une jeune femme qui est en danger de mort. Non, le mec, je rappelle, il renfort avant de s'y frotter. C'est assez marrant. C'est vraiment l'apogée de la nullité des adultes dans
c'est
cette
clair.
Série. Et donc, il n'a même pas le temps d'intervenir que James et Alyssa ont déjà réglé la situation puisqu'ils ont empêché Bonnie de se suicider. Et ils ont neutralisé son flingue et tout. Donc voilà. Et après, il y a un dénouement où... James et Alyssa se disent qu'ils s'aiment sur ce haut point de vue là qui est magnifique. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on prend de la hauteur un peu dans cette série qui est toujours dans les bois. Voilà, on se sent un peu enfermé, bah, comme dans Twin Peaks, tu vois, cette ambiance un peu boisée, un peu forêt. Et là, vraiment, on s'élève. Quoi ? C'est quand j'ai dit boisée.
Cette ambiance un peu boisée. J'ai l'impression d'être chez Naturalia.
Cette ambiance un peu boisée. Et du coup, ouais, on s'élève et sur le point de vue, finalement, enfin, James arrive à dire à Alyssa qu'il l'aime, parce que depuis le début, c'était son objectif quand même de lui dire qu'il l'aimait. Après avoir voulu la tuer. Et Alyssa lui répond qu'elle aussi, mais qu'il faut pas qu'il en fasse tout un char. Et voilà, ça se termine là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la fin ?
Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. J'ai trouvé ça très tendre. Et je trouvais que ça apportait vraiment une jolie conclusion à ces deux saisons. Parce qu'en effet, moi, j'ai pas vraiment pigé pourquoi une saison 2 dans la mesure où la fin de la saison 1 n'appelait pas vraiment de suite. Je trouve qu'ils ont très bien réussi à se sortir de l'impasse, entre guillemets, dans laquelle ils s'étaient mis à la fin de la saison 1. Et du coup, je trouve que c'était une conclusion qui était très mignonne. Il faut rappeler que ça reste une série pour ados. Mm-hmm. Je trouve que la fin est optimiste.
Oui.
Et en fait, ça fait du bien, tu vois, parce que même si j'étais contente quand Bonnie leur met une balle dans la tête à chacun, c'est mon côté un petit peu, voilà, j'aime quand ça se finit, quand les histoires se finissent mal, parce que la vie se finit souvent mal. Ouais. Donc, j'avais envie d'un peu de noirceur dans cette série. Je trouve qu'ils auraient pu, complètement prendre ce parti pris de buter les personnages principaux. Je trouve que c'est toujours un parti pris qui est fort. Mais toutefois, tu vois, j'étais contente qu'ils finissent sur une note positive, une note d'amour. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a envie de voir depuis le début, c'est de les voir se dire je t'aime. Et c'est de les voir ensemble. Mm-hmm. Après, si on avait décidé de les mettre ensemble bien plus tôt pendant l'intrigue, ça aurait perdu de son charme, évidemment. On était qu'en attente de ce moment, ce point culminant. Et on l'a eu. Donc, c'était très mignon. Mm-hmm. Et je trouve que ça m'a fait du bien à mon petit cœur.
Ouais, moi aussi. Et du coup, je sais pas s'il y aura une saison 3. Je sais qu'il y a eu... Non, c'est sûr que non.
Je crois qu'il y a eu des rumeurs à un moment donné, je crois qu'il s'arrête à la saison 2.
Voilà, je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est vraiment une bonne série de 2 saisons. Et ouais, que j'ai adoré vraiment,
et
très original.
Et qui est pas poussive, en fait, ça
pas
fait plaisir parce
tout.
Que on aurait pu en faire encore 3 des saisons où on trouve un argument pour les faire retourner dans les bois, s'engueuler, et puis se remettre ensemble à la fin. Voilà, je pense qu'il faut une bonne série, c'est aussi une série qui sait s'arrêter. Et voilà.
Exactement. Et bien, sur cette belle conclusion, c'est la fin de ce podcast qui doit savoir s'arrêter aussi.
On a fait des enchaînements aujourd'hui, dis donc.
Ouais, t'as vu ? Ça s'est enchaîné comme du petit lait, j'allais
dire. Dommage qu'entre-temps, on ait dit n'importe quoi, comme cette ambiance boisée.
Je vais en entendre parler jusqu'à l'année prochaine de cette phrase.
C'est nature et découverte. J'ai envie d'acheter un appôt.
C'est cool.
Un appôt, c'est un machin en bois pour appeler les oiseaux. J'en avais plein quand j'étais petite, ça coûtait 12 euros. Et je mettais trop d'argent de côté pour appeler les tourterelles.
Et ça marche ?
Pas du tout. Bah pas si t'habites à Levallois, quoi.
Merci Kalindi pour cette anecdote. En tout cas, si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mettez-nous aussi 5 étoiles sur Apple Podcast. Abonnez-vous. Voilà, on vous kiffe. Et bisous les popcornos, on avait décidé ça, non ?
Les popcornos ? Eh bien moi, je n'ai que peu d'avis. Il est un peu tôt ce matin pour que mon cerveau puisse trouver une meilleure option. Les popcorners.
C'est grave stylé ça, les popcorners.
Ouais, c'est bien.
Allez. Bisous les popcorners.